Vous êtes sur RTL. Alors.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos tous ensemble. Et donc ce soir à la une, l'affiche surprise chez les Républicains. Une finale, Éric Ciotti, Valérie Pécresse au second tour du Congrès.
C'est une belle victoire dont je n'ai jamais douté avec mes amis.
Du côté de l'Élysée. Ils vont devoir réécrire leur scénario.
Sensation, le député des Alpes-Maritimes arrive en tête au premier tour. Il a choisi RTL pour son premier grand entretien et il sera notre invité à 18h15. Valérie Pécresse lui répondra et sera elle notre invitée à 19h. La présidente de la région Île-de-France qui a déjà reçu les soutiens des perdants Michel Barnier et Xavier Bertrand. Le duel inattendu à droite débute donc ce soir sur RTL. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Vaccinés ou guéris, sinon rien ou presque. Pas de course dans les magasins de jouets ou de bricolage. L'Allemagne durcit le ton contre les non-vaccinés. Explication dans un instant. À suivre aussi la démission de l'archevêque de Paris, acceptée en express. Le pape cherche à ramener le calme dans la vitrine de l'église en France. Et puis quand le patron de la SNCF s'en prend à l'aérien, ça lui vaut une réponse cinglante du ministre délégué au transport information RTL. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 9, le 14, le 10, le 6 et le 5.
18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de découverte avec Cyprien Signy et la bande. Quel est le programme, Cyprien ?
Ce soir, la vaccination obligatoire à travers l'histoire. Échec et réussite d'une politique de santé publique pas automatique. Et puis au menu également, c'est une info incroyable, Mickey remplacé par Minnie dans le monde merveilleux de Disney.
À 19h15, on va refaire le monde et le congrès LR autour d'Éric Brunet. Des points réguliers également sur la météo avec vous, Peggy Broche, comme chaque soir. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est la tendance ?
Et un temps bien pluvieux demain sur l'ouest du pays.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Valérie Pécresse contre Éric Ciotti, c'est donc l'affiche du second tour du Congrès Les Républicains pour l'investiture à la présidentielle.
Bonsoir Thomas Desprez.
Bonsoir.
Les résultats d'abord avec 4 des 5 candidats dans un mouchoir de poche.
Ouais, il y a moins de 4000 voix d'écart entre eux, c'est Éric Ciotti qui en a donc profité. C'est lui qui arrive en tête avec 25,5% des voix, juste devant Valérie Pécresse, 25% tout pile. En troisième position, Michel Barnier, presque 24%. Quatrième et avant-dernier, Xavier Bertrand, désillusion pour lui avec 22%. Le dernier, ce n'est pas une surprise. Philippe Juvin récolte seulement 3%. À noter que c'est un scrutin qui a particulièrement mobilisé les adhérents LR. Ils sont plus de 80% à avoir voté.
Et donc on l'a dit, cette finale elle débute sur RTL parce que les deux prétendants seront avec nous dans RTL Soir. Éric Ciotti dans moins d'un quart d'heure qui a déjà dit son immense joie. Et puis Valérie Pécresse qui sera notre invitée à 19h qui elle a déjà appelé à l'unité derrière elle.
Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles. Je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Cette élection, je la gagnerai avec vous pour défendre la République, réparer la France et réconcilier les Français.
Et ce soir, justement, Thomas, c'est déjà tous derrière Valérie Pécresse.
Oui, au sens propre comme au sens figuré. Tout à l'heure, à son quartier général, Xavier Bertrand et Philippe Juvin étaient derrière elle, les deux derniers de ce congrès. Le président des Hauts-de-France n'a pas attendu pour annoncer son ralliement. Lui qui misait tout sur cette élection, celui qui a le plus tardé, c'est Michel Barnier, mais il la soutient lui aussi. Ajoutez à cela un bon nombre des ténors des Républicains, comme Damien Abad, le patron du groupe à l'Assemblée. C'est simple, aucun soutien de taille à cette taille pour Éric Ciotti. À part peut-être celui d'Éric Zemmour, oui, il a tweeté tout à l'heure « Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR ».
Alors vous restez avec nous, Thomas Desprez du service politique de RTL. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qui va se passer jusqu'à la désignation du candidat ce week-end. D'abord, un mot quand même du grand perdant de la journée en la personne de Xavier Bertrand.
Il est évident qu'à partir de maintenant, c'est ma région des Hauts-de-France, celle dans laquelle j'habite, je vis.
Donc c'est la fin de vos ambitions nationales, vous le dites.
Oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. Vous savez, toujours pour habitude de faire ce que je dis.
Xavier Bertrand qui renonce donc à toute ambition nationale. Franck Hanson, vous êtes aux côtés de ces militants pour RTL à Lille dans sa région des Hauts-de-France.
Oui, et ils accusent le coup, même s'ils prennent acte du choix du parti. Ces jeunes militants nordistes n'avaient pas ménagé leurs efforts pour soutenir le candidat Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui était le meilleur pour battre le président Macron, selon eux. Alors ce fameux débat entre les deux hommes n'aura donc pas lieu et on se console comme on peut au siège des Républicains à Lille.
Forcément, dans le Nord, on était derrière Xavier Bertrand. Après, on savait que le défi était immense. Et voilà, on s'est battu, on a donné toutes nos forces. Et aujourd'hui, l'important, c'est de préserver l'unité du mouvement. C'est sûr que quand on regarde les sondages, c'était le mieux placé. Après, les favoris ne sont pas toujours ceux qui remportent la victoire à la fin.
Pour Xavier Bertrand, vous pouvez redresser la France comme il a redressé la région.
C'est décevant, mais après, c'est le jeu de la campagne.
Ce choix présidentiel, c'était son ambition ultime à Xavier Bertrand qui avait mobilisé ses troupes ici dans la région. Mais pour Jimmy, il a commis quelques erreurs.
Le fait qu'il ait quitté le parti en 2017 l'a bien handicapé. Le fait qu'il annonçait d'abord vouloir se présenter à la présidentielle seul, ça a vraiment bien énervé les militants.
Il y a un peu un péché d'orgueil quand même, malgré tout.
Ah oui, je pense. C'est un très bon président de région. Il fait un très bon travail dans notre région et je pense qu'il va continuer ainsi.
Et ce soir, donc, ses opposants au Conseil régional des Hauts-de-France ironisent en se disant qu'il récupère enfin un président à 100%, même si ce n'était pas son plan de départ.
Un reportage à l'île de Franck-Hanson pour RTL.
Alors, on vous retrouve, Thomas Desprez, du service politique de RTL. À partir de maintenant, donc, comment ça va se passer pour les deux finalistes?
C'est un deuxième tour express qui débute jusqu'à ce soir, 23h59. Après, plus rien, on n'entendra plus les candidats. Ce soir, pas de meeting de prévu, quelques interventions à la télévision pour Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Quelques vidéos aussi, sans doute, sur les réseaux sociaux. Début du vote demain matin à 8h pour un résultat attendu samedi à 14h30.
Voilà, ce second tour donc, qui va débuter ce soir, d'où l'importance d'écouter les deux candidats.
Ah oui.
18h15, Éric Ciotti et 19h, Valérie Pécresse.
RTL, 18h06. En Allemagne, le mot n'est pas utilisé, mais c'est presque un confinement des non-vaccinés pour lequel les autorités viennent de se prononcer.
Il représente à peu près un tiers de la population. Léo Brauer-Potier, vous êtes à Berlin pour RTL. Des non-vaccinés qui n'auront plus accès à la plupart des établissements recevant du public.
Oui, en clair, si vous n'avez pas encore vos deux vaccins, votre vie va devenir assez difficile en Allemagne. Le pays étant au commerce et aux événements publics, la règle des 2G qui impose à chacun et chacune d'être vacciné ou guéri afin d'accéder aux lieux publics. Les personnes testées négatives seront donc systématiquement refusées, et ce, quelle que soit l'incidence du virus. Plus facile à dire qu'à faire, car dans le Land de la Saxe, 4 habitants sur 10 n'ont pas encore reçu leur 2 doses. Autant de personnes qui pourront donc pas aller acheter de jouets en magasin pour les fêtes, pas aller chez le coiffeur ou s'asseoir dans un café. Olaf Scholz, cet après-midi, dit n'y voir absolument aucun problème.
S'il y a des régions qui appliquent la règle des 2G et on peut apprendre de leurs pratiques, comme à Berlin par exemple, on peut voir que ça fonctionne. Nous sommes pour beaucoup déjà vaccinés, on ne peut pas les laisser de côté. De plus, nous sommes dans une situation bien différente à celle de l'année dernière, lorsqu'il n'était pas encore possible à tout le monde de se faire vacciner.
Inciter à la vaccination est la stratégie prioritaire de celui qui est appelé à succéder à Angela Merkel dès la semaine prochaine. Olaf Scholz veut atteindre jusqu'à 30 millions de nouvelles injections avant la fin de l'année.
Léo Brauer-Potier à Berlin pour RTL. Restrictions aussi annoncées en Norvège, précisément à Oslo et dans sa région, après l'apparition d'un cluster présumé du variant Omicron, dont des cas sont signalés un peu partout dans le monde désormais et qui risquent de devenir majoritaires en Europe, selon les autorités sanitaires.
D'où l'inquiétude du gouvernement. Conseil de défense sanitaire, un de plus, énième conseil de défense sanitaire prévu lundi. C'est une annonce à l'instant du gouvernement pour savoir notamment s'il faut prendre de nouvelles mesures de restriction en France. Parce que ça y est, Omicron est également apparu en métropole. Odile Pouget, 5 cas désormais confirmés aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'annonce ce soir Olivier Véran, le ministre de la Santé. On connaît le profil précis de deux d'entre eux. Une habitante du Haut-Rhin, tout d'abord, entre 40 et 50 ans, de retour d'un séjour en Afrique du Sud, présentant des symptômes, testée positive à son arrivée. Cette patiente, totalement vaccinée depuis juillet, a été placée tout de suite à l'isolement en attendant les résultats de son prélèvement. Et selon l'ARS Grand Est, très peu de contacts à risque ont donc été identifiés. Autre cas, cette fois en Seine-et-Marne, un homme âgé d'une 50aine d'années, testé, isolé, là aussi à son domicile, dès sa descente d'avion jeudi dernier en provenance du Nigeria. Il ne présentait pas de symptômes. On attend les résultats du séquençage pour son épouse qui l'accompagnait. Cette fois, aucun des deux n'était vacciné. Le tout premier cas, on le rappelle, sur le territoire français avait été identifié mardi à La Réunion. Là aussi, un voyageur de retour d'Afrique australe.
En précision de Dil Pouget, spécialiste santé d'RTL. Merci.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec une décision qui n'a pas traîné. En une semaine, le pape a accepté la démission de l'archevêque de Paris. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h11, la suite de votre journal sur RTL. Il avait reconnu un comportement ambigu avec une femme. Et bien désormais, Michel Aupetit n'est plus l'archevêque de Paris.
Décision du Vatican, et il aura fallu, c'est exceptionnel, un mari guerrier, une semaine seulement au pape François pour accepter sa démission.
Alors que le plus souvent, ça prend plusieurs semaines. Mais il y avait urgence à ramener de la sérénité dans le diocèse de Paris. Un diocèse vitrine de l'Église de France qui a besoin d'un archevêque irréprochable et qui fasse l'unanimité, surtout en ce moment. Michel Aupetit le dit lui-même, il avait remis sa charge entre les mains du pape pour préserver le diocèse de la division. Que provoque toujours, dit-il, la suspicion et la perte de confiance. Suspicion depuis qu'un article de presse lui a prêté une liaison intime avec une femme. Perte de confiance depuis des décisions jugées brutales par une partie des catholiques parisiens qui lui en tenaient rigueur. Dans le message vidéo mis en ligne cet après-midi, Michel Aupetit évoque les difficultés relationnelles entre les hommes et ceux qui peut-être lui ont souhaité du mal. Son départ suscite tristesse et consternation chez les uns, mais fait dire à d'autres qu'il n'avait jamais vraiment endossé le rôle d'archevêque de Paris. Une voix qui doit compter, une voix qui doit porter un enjeu médiatique et politique qu'il n'avait pas investi. Pour assurer l'intérim, le pape aurait pu demander un administrateur issu du clergé parisien, mais il a nommé un administrateur apostolique extérieur, signe que le diocèse est dans une situation compliquée. Et c'est donc Georges Pontier, l'archevêque émérite de Marseille et ancien président de la Conférence des évêques de France, qui va gérer provisoirement l'église de Paris.
Marie Guerrier, merci. Une enquête pour harcèlement sexuel ouverte à l'encontre de l'ancien secrétaire d'État écologiste Jean-Vincent Placé. Il dit prendre acte de la plainte déposée par une collaboratrice pour des faits remontant à plusieurs années entre 2012 et 2016. La mise en examen ce soir pour homicide volontaire du suspect arrêté 27 ans après le meurtre de Nadège Desnois dans l'Aisne. Le quinquagénaire identifié après une récente affaire de violence conjugale a été placé en détention provisoire. Une petite phrase et un recadrage interrogé hier sur le prix des billets de train par la Commission du développement durable, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a lui estimé que la question n'était pas celle du prix du ferroviaire, mais de l'aérien.
C'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui n'est pas assez. Est-ce qu'on impute au billet d'avion le coût de son impact carbone ou pas ? Si on l'impute pas, ça donne ça.
Et Jean-Pierre Farandou de plaider pour une taxe kérosène, ce qui n'est pas du tout du goût du ministre délégué au transport et ancien pilote Jean-Baptiste Djebbari. Et vous nous le révélez ce soir, Arnaud Touche, il l'a fait savoir de façon cinglante à l'intéressé.
Oui, puisqu'il a écrit au président de la SNCF dans la foulée. Je ne te cache pas mon étonnement de t'entendre à nouveau exprimer ta position anti-avion alors que l'État n'a jamais autant investi dans le ferroviaire, assène le ministre visiblement énervé. Jean-Baptiste Djebbari lui explique également que l'avion et le train sont complémentaires et l'accuse même de lancer une polémique contre-productive. Des mots durs qui, même chez Sudrail, étonnent, comme le concède Fabien Villedieu, qui siège au conseil d'administration de la SNCF.
C'est quand même surprenant parce que j'ai cru comprendre qu'on avait un ministre, un gouvernement qui essayait de faire la promotion des transports écologiques. Et aujourd'hui, le transport écologique, notamment lorsque vous voulez vous déplacer en France, c'est le train, c'est pas l'avion. J'attendrai, moi, du ministre des Transports qui fasse la promotion du train. Voilà.
Et dans l'entourage du ministre, on assume ces mots et on rappelle que l'action du gouvernement a été menée en faveur de l'ensemble des moyens de transport.
Information RTL, signé Arnaud Touche.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Alors,
avec cette décision inédite pour un magazine de mode, plus question d'afficher de la fourrure animale dans les pages de Elle en France et dans toutes les éditions internationales. Sa vice-présidente dit vouloir promouvoir une industrie de la mode plus humaine, aussi bien d'ailleurs dans les publicités que dans les articles.
C'était la bonne nouvelle du jour. Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps maintenant avec vous, Peggy. Bonne nouvelle aussi ou pas ?
Bah non, pas bonne nouvelle, surtout sur l'Ouest, parce que là...
Ouais, comme chaque soir, on a compris.
Mais oui, mais on a eu un temps plutôt calme à l'Ouest aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut l'avouer. Maintenant, retour de la pluie avec une nouvelle perturbation pluvieuse et bien venteuse. Elle touchera dans la matinée un quart nord-ouest avec quelques flocons possibles avant les pluies, mais ça ne tiendra pas sur les routes, donc pas d'inquiétude. D'ailleurs, un ciel bien gris, mais le soleil va tout de même résister entre la Méditerranée et les Alpes avec beaucoup de vent. Au fil des heures, les pluies vont gagner les frontières du nord jusqu'aux Ardennes, le Massif central et jusqu'à l'Aquitaine. Et comme le matin, quelques flocons possibles avant la pluie, un risque de pluie verglaçante également vers le Limousin, donc prudence. Et puis les Pyrénées au nord-est, là le ciel sera sec mais couvert et juste voilé sur le sud-est. Et puis il restera également quelques averses en Corse. Côté température, vous l'avez compris, beaucoup de gelée avec le retour de quelques flocons et les maximales, 3 à Strasbourg jusqu'à 14 à Nice, 4 à Paris et Lille ainsi que Grenoble, 13 à Brest c'est plus doux sur les côtes et 14 à Agen. Et je rappelle que le Nord-Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crue.
Vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup, cher Peggy. Une petite pause et ensuite, le duel à droite débute dans RTL Soir. Éric Ciotti face à Valérie Pécresse, c'est la finale inattendue au Congrès des Républicains. Qui sera le candidat du parti à la présidentielle? Les deux prétendants qualifiés aujourd'hui sont nos invités dans RTL Soir. Dans un instant, c'est Éric Ciotti en premier qui va répondre à nos questions. Il a choisi RTL pour son tout premier entretien. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Et bonne fin de journée avec RTL. C'est donc la surprise du jour et l'événement aussi. Éric Ciotti en tête du premier tour du Congrès des Républicains. Le député des Alpes-Maritimes obtient 25,59% des voix. Devant Valérie Pécresse, 25%. Ce sont les deux finalistes. Ils auront tous les deux la parole ce soir sur RTL. Début du vote pour le second tour demain matin. Le nom du vainqueur sera dévoilé samedi. Le nom donc du candidat LR à la présidentielle. Sachez que Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin sont éliminés. Ils ont tous les trois appelé à voter Valérie Pécresse. Elle sera notre invitée à 19h tout à l'heure de RTL Soir. Pour l'instant, c'est son concurrent, Éric Ciotti, qui est avec nous. Bonsoir Éric Ciotti.
Bonsoir.
On a vu beaucoup de sourires, presque étonnés à votre QG cet après-midi. Est-ce que vous-même, vous êtes surpris du résultat?
Écoutez, j'ai senti dans les derniers jours, même dans les dernières semaines, une dynamique. Des militants extrêmement motivés et qui adhéraient de plus en plus aux idées de rupture, aux idées de droite que tout simplement j'ai voulu porter dans cette belle compétition, d'une compétition d'unité, de rassemblement qui s'est bien déroulée. Je veux en rendre hommage à Christian Jacob. Voilà, ce fut une magnifique campagne. Peu de personnes au début, lorsque j'ai lancé dans ma terre des Alpes-Maritimes, le 27 août, ma candidature, donner une chance à cette démarche. Oui. Certains l'ont traité avec un peu de scepticisme, voire de caricature. Eh bien, je crois avoir démontré que les idées de droite, d'une droite qui s'assume, qui ne s'excuse pas, le projet de rupture que j'ai porté, que j'ai développé, notamment au travers... un projet qui s'inspirait beaucoup des réformes portées par François Fillon, mais surtout qui accélérait et qui portait un rythme de baisse massive des impôts, eh bien ce projet, les Français, les militants des Républicains, y ont adhéré.
Vous dites,
ça me donne beaucoup de force et de confiance pour le second tour.
Une droite qui s'assume comme si les idées de vos concurrents n'étaient pas vraiment de droite. La vraie droite, c'est vous, c'est ça l'enseignement de ce premier tour ?
C'est une droite fière de ses valeurs. Moi, je suis de droite. J'avais d'ailleurs mis le cap dans cette campagne à droite. C'était mon slogan de campagne avec un trait de volonté, avec un point d'exclamation qui exprimait justement cet engagement à droite. Je crois que jamais nos concitoyens n'ont autant adhéré aux valeurs de droite dans notre pays. Pour moi, la droite, c'est aimer la France, c'est... vouloir restaurer l'autorité au service de l'ordre républicain, c'est défendre notre identité, notamment contre la montée de l'islamisme, c'est promouvoir une liberté économique qui récompense le travail, qui baisse les impôts et les charges. Ces valeurs, elles sont plébiscitées aujourd'hui. Elles ne sont pas mises en œuvre par le gouvernement. Et je crois que le temps est venu pour notre famille politique d'oser la droite, d'oser ses valeurs. Et je crois que c'est une nouvelle campagne qui, ce soir, commence et que les pronostics, je crois, comme ils ont été déjoués au premier tour, le seront également au second.
Alors, vous voyez tout de même les ralliements immédiats derrière Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier ont immédiatement apporté leur soutien à votre concurrente, désormais. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu seul contre tous ce soir?
Non, je respecte le choix de chacun. Je me suis entretenu avec Valérie Pécresse, là, il est l'essentiel. Après, je mesure qu'il y a forcément des déceptions. C'est humain, c'est naturel de la part de candidats qui étaient engagés depuis plusieurs années dans cette démarche. Voilà, moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est la relation directe que j'ai avec les militants. Je suis un militant des Républicains. J'ai toujours adhéré à ma famille politique, les soirs de victoire comme les soirs de défaite. La vérité, la fidélité, la clarté. Je n'ai pas voté Emmanuel Macron en 2017. J'étais au Trocadéro. Voilà, ça pose des différences avec l'ensemble de mes concurrents, du premier comme du second tour. Et je suis sûr que maintenant que les militants voient qu'il y a une autre perspective, vous savez, aucun des commentateurs ne peut présenter comme pouvant gagner cette élection.
La dynamique aujourd'hui, c'est le cas. La dynamique est plus forte que les mathématiques, là, après ce premier tour, pour vous ? Parce que c'est vrai que si on regarde les mathématiques, c'est 75% des voix pour Valérie Pécresse au second tour. Vous pensez pouvoir déjouer ce pronostic ?
Bien sûr, la politique, ce n'est pas une affaire de mathématiques. Je crois que dans chacun des candidats qui étaient présents au second tour, que ce soit au premier tour, que ce soit Michel Barnier, Xavier Bertrand ou Philippe Juvin, il y aura des militants nombreux qui vont voter pour moi. Hein. J'en suis profondément convaincu. Il y avait des attachements géographiques, régionaux, qui vont ne pas être fidèles à ceux du premier tour. J'en suis profondément convaincu. Et puis le message que je porte, c'est un message différent. C'est un message d'une droite, encore une fois, du courage, d'une droite de la rupture, d'une droite qui laisse pas l'idée de nation, l'idée de travail, l'idée de mérite, l'idée d'autorité, de sécurité à l'extrême droite. Voilà.
Vous parlez d'idées, c'est intéressant.
Et je suis le seul aussi. Je suis le seul, si vous permettez juste là-dessus, à pouvoir rassembler tout le peuple de droite. Voilà, ceux qui nous ont quittés pour Marine Le Pen, voire pour Emmanuel Macron, ceux qui pourraient être tentés par Éric Zemmour.
Ah bah c'est très intéressant ce que vous dites,
Zemmour, aujourd'hui, il doit se rassembler.
Éric Ciotti, il vous écrit même « Heureux, cher Éric, de voir nos idées largement partagées chez les militants LR ». Est-ce que vous acceptez ces félicitations ? Est-ce qu'elles vous flattent ? Est-ce qu'elles vous gênent ? Et puis, est-ce que vous avez les mêmes idées qu'Éric Zemmour ?
Bah, d'abord, je le remercie de ses félicitations. J'en ai reçu d'autres, y compris d'autres représentants de formations politiques plus à gauche sur l'échiquier politique. Voilà, c'est des félicitations républicaines. Et on est en République et naturellement, je le redis, je respecte ce positionnement, d'autant que j'ai toujours eu des relations d'amitié avec Éric Zemmour. Et c'est pas parce qu'il est candidat que ces relations vont changer.
On a l'impression que vous avez plus de points communs avec lui qu'avec Valérie Pécresse, finalement.
Avec Valérie Pécresse, nous appartenons à la même famille politique. C'est ce qui fait, bien sûr, la différence avec d'autres. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de battre Emmanuel Macron. Et je crois pouvoir être le seul, vu aujourd'hui la place des idées de droite dans notre pays, vu les scores qu'on attribue aux uns et aux autres à droite, mais qui, je pense, n'ont pas de chance de pouvoir gagner au second tour face à Macron, ou peu de chance. Je crois que seul un candidat républicain peut gagner. Mais un candidat républicain qui a des idées de droite, d'une droite forte, et qui, encore une fois, n'a pas honte d'être elle-même. Voilà, c'est une droite de droite, pas une droite centriste.
Si jamais vous n'arrivez pas à gagner au second tour, est-ce que vous vous rangerez aussitôt derrière Valérie Pécresse ?
Oui, bien sûr, on s'y est engagé. C'est une candidature d'unité, c'est une démarche au sein des Républicains d'unité et de rassemblement. Et naturellement, je suis convaincu, ce qui est une hypothèse, je vous le dis, qui est non pas impossible, mais qui est possible et même probable, si je gagne cette élection, eh bien, je suis sûr aussi que Valérie Pécresse sera derrière moi.
Merci Éric Ciotti d'avoir été ce soir notre
Merci
invité sur RTL. Après
Merci
donc votre score au premier tour du Congrès Les Républicains. Vous êtes arrivé en tête, 25,59% des voix. Vous serez finaliste face à Valérie Pécresse, 25%, qui, elle, sera notre invitée tout à l'heure, 19h. Les deux finalistes ont la parole dans RTL Soir. Merci d'avoir été notre invité.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, une petite pause dans ce match de la droite dans RTL Soir. Et puis ensuite, on va vous rappeler les grands titres de l'actualité. Le variant Omicron, ça y est en France. Conseil de défense sanitaire prévu lundi. On va y revenir dans un instant. Et puis, dans Laissez-vous tenter dernière, Julia Molcou va nous emmener à la Cinémathèque de Paris pour revoir des films avec Yves Montand. Ça vous plaît, ça, Peggy ?
C'est parfait.
Alors, on y va juste après ça.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h31.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez à l'instant, Marion Calais vous rappelle les grands titres de l'actualité. Marion, vous écoute.
Le débat du second tour chez les Républicains ce soir sur RTL, avant Valérie Pécresse tout à l'heure à 19h. Éric Ciotti, il y a un instant, a salué une magnifique campagne défendant son cap, celui, je cite, d'une droite sûre de ses valeurs. Éric Ciotti, un peu seul contre tous, soutenu par Éric Zemmour. Ses autres adversaires, en revanche, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, ont appelé à voter Valérie Pécresse. L'Allemagne sévit, accès limité à de nombreux commerces pour les non-vaccinés. La France, elle s'interroge. Face à la cinquième vague, le Premier ministre a annoncé aujourd'hui la tenue d'un conseil de défense sanitaire lundi pour décider si de nouvelles mesures sont nécessaires. La France, où 5 cas du variant Omicron ont été détectés. La WTA joue le bras de fer en excluant la Chine de ses tournois. Le Comité international olympique, de son côté, joue l'apaisement. Le CIO annonce avoir de nouveau contacté Peng Shuai, cette joueuse de tennis à la situation trouble depuis qu'elle a accusé un ancien dirigeant du régime d'agression sexuelle.
Merci Marion. Bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, ou ce qu'il en reste pour demain?
Ce qu'il en reste, oui, de l'eau, de la pluie, une perturbation qui va gagner tout l'ouest du pays. Bien pluvieuse, bien venteuse, d'abord sur un quart nord-ouest le matin, avec quelques flocons possibles avant l'arrivée des pluies sous l'air froid. Ailleurs, un ciel couvert, sauf entre les Alpes et la Méditerranée, où globalement toute la journée il fera beau, mais avec du vent. Et dans la journée, les pluies vont gagner une bonne partie ouest, donc jusqu'aux Ardennes. Pluie et neige mêlées possibles, jusqu'au Massif central et l'Aquitaine. Attention au risque de pluie verglaçante vers le Limousin. Les températures, elles seront froides, de nombreuses gelées. Et les maximales, de 4 à 7 degrés au nord, plus 12 près de la Manche et dans le sud, de 10 à 14 degrés.
C'est donc un temps à aller s'enfermer soit au cinéma, soit au musée. On y va,
Peggy ? On est d'accord, c'est parti.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et notre guide ce soir dans Laissez-vous tenter, dernière, c'est Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir Peggy, bonsoir, bonsoir à tous.
Il est question d'un hommage.
En effet, de l'hommage que la Cinémathèque de Paris rend à Yves Montand à l'occasion du centenaire de sa naissance. Il était né en octobre 1921 et peut-être aussi un tout petit peu à l'occasion des 30 ans de sa disparition. C'était en novembre 91.
Mais t'es fou? Tu ne peux pas frapper?
C'est moi. Ce que je fais, vous l'avez bien vu, non? Je commence le tournage d'un film. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante.
Yves Montand venait d'un pays qui n'existe plus. Non pas son Italie natale, bien sûr, mais le monde fantastique du music-hall. Celui où les acteurs et les actrices savaient chanter, danser et jouer la comédie. Tout ça à la fois. Pour Yves Montand, ça n'a pas toujours été facile néanmoins de se retrouver devant une caméra. Et pourtant, il est devenu l'un des visages familiers et ô combien aimé du public. Pour les uns, il reste l'inoubliable Blaze dans La Folie des Grandeurs. Pour d'autres, il est le corps décharné d'Arthur Ludwig dans L'Aveu de Costa Gavras. Enfin, pour beaucoup, il est César dans César et Rosalie.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse.
Alors, c'est un plaisir de réécouter ces extraits.
Ah mais oui, et alors là, vous allez pouvoir le retrouver. Ses costumes, ses cravates, son accent méridional, son sourire, ses mains, son visage capable de tout évoquer sans qu'un seul mot ne sorte pourtant de sa bouche, sans qu'une grimace ne s'affiche sur son visage. Redécouvrir son parcours d'acteur à travers une vingtaine de longs métrages tournés entre 46 et 91, eh bien c'est ce qu'on vous propose jusqu'au 20 décembre à la Cinémathèque de Paris. Et moi, ce genre de proposition, ça me fait toujours de l'effet. Pas
c'est
vous
si bon.
C'est...
de partir n'importe où.
Courez donc à la Cinémathèque de Paris. Ça y est, c'est ouvert, on peut y aller là.
Ça y est,
Julia.
C'est tout ouvert. Super. Depuis ce soir.
Jusqu'au 20 décembre.
Je vous attends, je vous emmène.
On y court, mais avec grand plaisir. Hey. J'ai juste l'interview de Valérie Pécresse avant à 19h, si ça ne vous dérange pas. Mais après, je suis libre, Julia.
Teasing, parfait.
Toujours le sens du teasing. Les bons conseils de la bande de Laissez-vous tenter tous les soirs sur RTL. Merci beaucoup, Julia. Une petite pause et ensuite RTL Soir continue. On va défaire le monde, vos 20 minutes d'actu autrement. Cyprien Signy, oui. Céline Landreau, Laurent Tessier entrent en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Dans un instant, on va s'intéresser au débat sur la vaccination obligatoire. C'est le débat qui est en train de monter en Europe. A tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.